Alors, d'abord, pour vous garder dans la salle jusqu'au bout, à la fin, je vois tous, vous êtes en train de rêver face à nos merveilleux t-shirts.
Vous allez pouvoir tous
en avoir un, dans le calme, hein, vous passerez à la fin ici. Et il y a de la bière et pizza pour tout le monde aussi.
Pour votre sécurité, je les distribuerai. Faut pas qu'il y ait un effet. Je peux normalement tous vous attraper, mais après, ça va être un peu long. Donc on essaiera de faire, on a plusieurs tailles, j'espère qu'on trouvera la bonne taille pour tout le monde. Il n'y avait qu'un double XL, il faudra deviner qui c'est qu'il a eu.
Ok, c'est parti. Donc ce sont les merveilleux logos qui ont été créés par le W3C pour décrire les différentes parties de HTML5. On va parler donc des trucs Wawa, plus connus sous le terme de technologie graphique. Alors voici l'agenda, on va voir les bases de Canvas et SVG. Alors quand on dit que SVG fait partie de HTML5, c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est plutôt Canvas fait partie de HTML5. SVG existe depuis pas mal de temps. Pour une raison simple, il n'était pas beaucoup utilisé parce qu'il y a un vilain navigateur qui vous refusait de l'implémenter jusqu'à sa version 9.
On ne dit pas lequel, par contre.
Et qu'il y avait une technologie concurrente qui s'appelait VML. Par contre, la nouveauté avec HTML5, c'est désormais SVG peut être intégré au sein même du HTML. Donc c'est la nouveauté. Alors, on va voir quand utiliser l'un ou l'autre, parce que souvent les gens se demandent quels sont les scénarios.
Comment, pourquoi ?
L'outillage, pas mal d'outillages open source, je vais vous montrer un d'ailleurs. Et pour finir la journée de bonne humeur du jeu, pour être sûr que quand vous rentrez à la maison, parlez à votre patron, vous soyez sûr d'avoir un truc que vous pouvez mettre en production. Alors les bases de SVG. Assez simple, ça veut dire Scalable Vector Graphics.
With the accent.
Ça permet de dessiner en 2D du contenu vectoriel à base de primitives XML. Alors, à tout hasard, y a-t-il des développeurs Silverlight dans la salle ?
Je déconne, moi aussi.
À peu près, ouais. Non, on ne l'est... Non, on l'est ou pas. ça vous rappellera un petit peu XAML dans son approche, sur la façon de décrire, finalement, l'ensemble des primitives. C'est un mode retained. Je n'ai pas su le traduire, retained mode.
C'est le mode retenu.
Ouais. Donc, voilà. En gros, ça veut dire que l'ensemble de ce que vous voulez dessiner est retenu en mémoire dans le DOM. Donc tout est présent dans le DOM, donc faites attention, potentiellement ça coûte cher en mémoire. Et donc vous pouvez accéder à l'ensemble des éléments SVG comme si c'était des éléments de type HTML. Donc, vous allez pouvoir les styler par CSS. Donc c'est très intéressant d'utiliser SVG. En fait, on s'est séparé les rôles, parce que moi j'aime vraiment SVG de ce côté-là. Ce qui est très intéressant également lorsque vous allez faire des interfaces, pensez à l'accessibilité. SVG, c'est la seule solution en fait possible pour faire des interfaces accessibles, puisqu'on peut le coupler avec ARIA, une technologie d'accessibilité par attribut, ce qui n'est pas forcément possible avec l'autre, on le verra tout à l'heure.
Ah non, parce que lui, il n'est pas retenu, pour le coup.
Il n'est pas retenu.
Non, et tout lâché, même.
On peut charger un fichier SVG depuis l'extérieur, vous allez le produire avec un outil, ou le mettre directement en ligne dans le document HTML5. Alors, on va voir un exemple tout simple. J'ouvre ma balise SVG, éventuellement donc dans mon document HTML5. Je vais lui donner la taille du viewport, 400 par 200 pixels, et je vais créer deux magnifiques rectangles qui font 100 par 75, rouge et bleu. Et donc voilà, donc il faut se taper le XML potentiellement à la main. Et on verra heureusement qu'on a des outils pour nous aider, surtout pas mal de librairies.
Donc, il est noté que tu n'es pas graphiste non plus.
Je ne suis pas graphiste, non, je vous le confirme. Important. Nous cherchons des designers talentueux, manifestez-vous. IE supporte une partie de SVG, c'est-à-dire qu'on supportait tout sauf trois trucs, qui étaient le filter effect qui arrive dans IE 10. On peut faire des animations en SVG, ça s'appelle Declarative Animation ou Smile, qu'on ne supporte pas dans IE. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de navigateurs qui supportent entièrement. Opera est très bon là-dessus. Tout simplement parce que dans la partie CSS3, on peut faire des animations, des transitions qu'on peut coupler avec SVG. Donc en fait, on avait deux spécifications qui rentraient en collision. Et nous, on a fait le choix de ne pas partir sur celle-là, mais plutôt de CSS. Pareil pour les fontes SVG. Il existe aujourd'hui une approche qui s'appelle WoW pour faire des fontes. Et nous, on a décidé de ne pas l'implémenter. Au début, c'était ceux qui le faisaient, c'était juste pour avoir 100 au test ACID 3. Et je ne sais pas si vous avez vu, le test ACID 3 était mis à jour pour justement dégager ces parties-là. Et du coup, IE9 a eu 100 au test ACID 3 en faisant rien du tout, parce que le test a été modifié. Donc sachez-le. Mais ce n'est pas nous qui l'avons modifié, promis.
Non.
Alors, on va voir les bases de SVG avec quelques exemples de code. J'ai chargé un projet Visual Studio. Je vois sur Twitter que les gens sont
fans de Visual Studio.
Fans de Visual Studio et ASP.NET, manifestement. Ça a beaucoup plu, la partie ASP.NET aux gens. Donc, ouais, on utilise quand même nos outils, hein, tant qu'à faire.
On ne les paye pas, en fait, donc forcément.
Ah bon ?
T'as moins, tout ça pas.
Le seul qui s'est fait avoir, là. Alors, on va commencer par voir un rectangle bleu. Donc, je vous dis, c'est la base. Si on regarde le code source, ça ne va pas être bien méchant. Ça ressemble à ça. J'ai mis mon doctype HTML qui va bien. J'ai derrière, je prépare la possibilité de le styler, on va voir pourquoi après, et je fais mon rectangle bleu, je fais une zone de 1000 par 1000 pixels et je dessine un rectangle bleu. Assez impressionnant pour l'instant. Alors, quelques heures plus tard, j'arrive à ça.
Et je tiens à signaler que je l'ai vu faire, c'est vraiment David qui
c'est
a fait ça.
Impressionnant, incroyable. Impressionnant. Donc je suis indépendant incroyable. De la résolution, c'est l'avantage de SVG. Donc en fait, SVG va être une technologie intéressante pour les fameuses expériences multi-device, multi-périphériques, etc., qui nous font tous rêver grâce à HTML5. Donc vaut mieux décrire les éléments qui vont devoir bouger en fonction de la résolution en SVG lorsque c'est possible. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'ensemble des éléments est présent dans le DOM. Si j'appuie sur ma touche F12, ici, je vais me faire un peu de place. Hop, j'y arrive. Regardez, à chaque fois que je passe ma souris en fait, sur un élément, j'ai bien une réflexion dans le DOM. Tout est déjà présent en fait, et instancié dans le DOM, c'est bien le mode retain. Donc cette scène qui a été générée par un outil de type Adobe Illustrator en fait, est en train de me gonfler à mort ma mémoire sur mon navigateur. Donc vous amusez pas à faire ça forcément. SVG va se prêter à certains scénarios pour faire des boutons, des graphiques, mais ne chargez pas tout ça dans la mémoire du navigateur. On n'a pas encore tous 16 Tera de mémoire sur nos tablettes. Donc faites gaffe à ça. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est là où en fait, des fois on fait rêver les développeurs Flash ou Silverlight, je fais CTRL F, je cherche le texte. Il cherche le texte malgré le fait qu'il est sur un passe particulier. Et surtout, ce qui est intéressant de dire, si notre petit copain Google ou Bing indexe ma page, malgré le fait que j'ai un contenu vectoriel, il est indexé. Ce qui n'est pas aussi simple que ça à faire en Flash ou Silverlight, il faut toujours se débrouiller pour faire des shadow sites, ce genre de trucs. Donc c'est intéressant comme technologie à ce niveau-là, SVG. Hop. Alors, pourquoi c'est intéressant de le coupler avec CSS? Imaginons que là, j'ai à nouveau, on revoit mes talents de graphiste en œuvre, j'ai 4 carrés de couleurs, et que je me dis qu'en passant la souris sur un de mes éléments, je veux changer la couleur en arrière-fond. Pourquoi pas?
Oui, génial.
Génial. Donc je le fais ici, sauf sur un.
Interface réactive.
Voilà, ça marche bien. J'ai pas de code JavaScript pour faire ça. Tout ce que j'ai eu besoin de faire, si je regarde le code source, c'est de styler, d'utiliser la pseudo-classe Hover, qui doit être quelque part ici, et d'en fait de positionner du CSS sur tous les éléments de type rectangle, comme on le voit ici. Okay. J'ai également colorié celui qui avait, je crois, le green rectangle, la classe green rectangle, je le remplis en vert. Et puis voilà, il y en a un que j'ai mis en inline, en dur, le pink, là, en faisant des trucs mal, en inline
sale.
CSS sale. Et c'est pour ça que celui-là ne change pas de couleur lorsque je passe ma souris. C'est particulièrement intéressant parce que si jamais je l'avais fait avec l'autre technologie de dessin qu'on va voir tout à l'heure, j'aurais été obligé de repérer la position de ma souris, en fait, en X, Y, et de me dire en ce moment, je suis sur quel rectangle et je vais devoir changer la couleur de cette manière-là. Là, avec CSS, pas besoin de le faire et on va continuer pour voir sur ce type d'exemple. Donc, on peut utiliser du coup aussi tout ce qui est CSS 3. Alors, ça marche dans pas beaucoup de navigateurs, je crois aucun pour l'instant. Mais à terme, ça devrait être possible dans les spécifications. Imaginons qu'on fasse de l'animation transition sur un objet SVG particulier. On va pouvoir coupler les deux technologies ensemble. Alors, pour générer le clic, on va le voir un autre exemple tout à l'heure différent. Imaginons que je veux cliquer uniquement sur la partie jaune ici de mon cercle. Si je clique, alors croyez-moi, je clique en ce moment.
J'entends le clic, j'atteste.
On entend, hop, ça clique. Et si je clique juste sur le bord du cercle, hop, j'ai bien mon alerte qui est levée. En fait, c'est assez simple à nouveau à mettre en place. Il faut le considérer comme un élément HTML comme les autres. Sur mon élément circle, j'ai mis un unclick, click me, et ça marche bien. Il fait le heat testing pour vous. À nouveau, pas besoin de tester les bords de l'élément qui est actuellement sélectionné. Et pour finir, on peut combiner les deux, c'est-à-dire que si j'avais envie de savoir que je suis en train de cliquer sur l'Alaska ou sur Hawaï, je crois, de l'autre côté, avec l'élément unover par CSS, je modifie le pays actuellement survolé. Et lorsque je clique dessus, je dis que je suis à l'Alaska ou à Hawaï, sans code JavaScript, uniquement en fait en positionnant du CSS, en positionnant l'événement unclick. Et je reviens sur la présentation. Et je te passe la main, mon cher ami.
Très bien. Donc là, on l'a vu, cette technique SVG, c'est du vectoriel. Là, moi, je vous parlais de la version un peu plus prolétaire. C'était un peu bourgeois, tout ça. C'est-à-dire que là, on va vraiment voir l'autre technologie qui s'oppose à celle-là, où on va tout se faire à la main. Et c'est carrément plus sympa. En fait, l'idée que l'on va avoir avec le canvas, c'est d'avoir un rectangle de mémoire dans lequel ce que vous allez écrire, en termes de pixels, va être tout de suite transmis à l'écran. Donc quand David parle de mode retenu, c'est-à-dire qu'il crée les objets, et ces objets-là, quel que soit l'événement qui se passe à l'écran, dès qu'il y a besoin d'un redessin, ce sont eux qui vont se redessiner naturellement. Donc en fait, vous créez un arbre d'objets, et cet arbre d'objets se dessine. Quand on va faire du canvas, c'est l'inverse en fait. À chaque fois qu'il y a besoin de se redessiner, vous devez refournir le dessin. Donc par exemple, toi, si tu devais t'afficher à 60 images par seconde, tu vas créer au début ton arbre graphique, terminé, c'est le navigateur qui va maintenir ces objets et les faire dessiner. Si avec un canvas, je dois tourner à 60 images par seconde, mon ordre de dessin dans le canvas doit donc être exécuté 60 fois par seconde. Alors, en fait, on a un jeu d'API qui ressemblera beaucoup, encore une fois, à ceux qui ont fait du WPF ou du Silverlight, à ce que l'on peut trouver en XAML avec les classes de writable bitmap, qui permettent dans un bitmap de dessiner dedans. Là, l'idée, c'est que je vais avoir un jeu d'API qui va me permettre de dessiner des formes standards, rectangles, ronds, etc., de poser un pixel avec une certaine couleur, ou même de faire des courbes de Bézier pour dessiner justement des formes un peu plus complexes. Donc, c'est vraiment le mode immédiat versus le mode retenu, d'accord ? C'est fire and forget. Je dessine et j'oublie, d'accord ? Je dessine et j'oublie, ce qui fait que si jamais je dois redessiner, je dois redessiner et re-oublier, etc., etc. Bien. Du coup, l'autre inconvénient par rapport à toi, David, c'est que c'est une boîte noire. Il n'y a pas de DOM dedans. C'est vous qui maîtrisez le dessin. Lui, il a juste un tableau. Par exemple, si votre image a fait 400 par 300, eh bien, il a en mémoire un tableau de 400 par 300 par 32 bits, okay, donc par 4 octets, qui va être l'image que vous dessinez. C'est un BMP dynamique, en fait, le canvas. Okay. Sauf que ce canvas, il a l'énorme avantage d'être accéléré matériellement, c'est-à-dire que les ordres que vous allez transmettre vont être traités par la carte graphique. Dessiner un rectangle ne va pas se faire en remplissant au CPU carré par carré. Ce sont des ordres qui vont être exécutés par les cartes graphiques et de facto, c'est quelque chose qui va être extrêmement performant. Du point de vue du fonctionnement, effectivement, vu qu'il n'y a pas de DOM, il n'y a rien dans la page HTML, si ce n'est le canvas lui-même. Là, vous voyez, donc la partie haute, c'est la déclaration de mon canvas, donc il fait 200 par 200, d'accord. À l'intérieur, petit texte qui sera affiché si jamais le canvas n'est pas supporté par votre navigateur, puisqu'il faut un navigateur HTML5, et c'est tout. Du point de vue d'HTML, j'ai terminé là. Après, on va passer côté JavaScript, et on va récupérer le canvas en faisant un getElementById. Bon, bien sûr, on aurait fait l'accès avec jQuery si on avait installé jQuery avec. Et on va récupérer un objet qui est le contexte, d'accord ? Alors, c'est un peu particulier, cette nomenclature, mais elle a un sens. Quand je fais getContext sur un canvas que je demande 2D, je veux travailler sur cet espace de travail en 2D. Ça a un sens parce que, par exemple, pour la norme WebGL, je fais un getContext 3D et je récupère un contexte pour travailler en 3D dedans. Bon, WebGL, c'est caca, on ne supporte pas tout ça. Mais c'est pour ça, c'est extensible. Donc, on revient à notre partie 2D. Donc là, on a un contexte, et ce contexte-là, c'est votre espace de communication avec l'espace mémoire, donc il y a un 200 par 200 ici. Et là, par exemple, je vais lui dire, écoute, je vais définir que la brosse que je vais utiliser va être de couleur rouge, d'accord ? Le fill style va être rouge, et je vais dessiner un rectangle et le remplir, d'accord ? Et ce rectangle, il va partir du pixel 30-30, donc en haut à gauche, va faire 50 sur 50 de haut. Voilà. Et ça, ce code-là va l'exécuter une fois, et je devrais l'exécuter à chaque fois que j'ai besoin de remettre à jour mon image et à chaque fois qu'elle doit être redessinée. Bien. Donc, je peux proposer qu'on aille voir une petite démo.
Faites-toi plaisir.
J'ai déjà lancé, tout à fait. Ici. Alors, donc dans les bases du canvas, on va revenir sur notre exemple ultra simpliste. Vous voyez ici, si on regarde les sources, qu'est-ce qu'on a ? On a bien notre canvas en bas, d'accord, qui fait 100 par 100. Ce qui est le cas puisqu'il est rectangle, qu'il est carré ici. Et en fait, on a un bout de JavaScript qui va être exécuté. Et ce bout de JavaScript, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va remplir le rectangle avec notre affaire ici. Bien. Relativement simple. Deuxièmement, là, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. C'est moins simple que dans le cas de David, puisque David, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis un exemple avec un clic sur son objet, le rond qu'il avait dessiné. Moi, si vous voulez, j'ai un canvas. J'ai rien. Le rond, il n'existe pas pour le navigateur. Lui, il a une image. Il est totalement agnostique par rapport à cette image. Il ne sait pas et il ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Donc, du coup, quand je regarde mon code source, vous voyez que c'est un poilou plus compliqué. À peine. Donc, j'ai un canvas, toujours pareil ici. Et celui qui va me fournir l'événement clic, c'est le canvas. Okay ? Mais le canvas, il est rectangulaire, d'accord ? Dans notre affaire. Pour autant, si je viens cliquer ici, vous voyez ce qui se passe ? Je clique dans l'événement canvas, il se passe quelque chose. Ce que je veux, quand je clique sur le rond, ici, ça serait de cliquer et de récupérer l'événement. D'accord ? Si on regarde dans le code, qui est ici. Ce que je vais devoir faire dans mon événement ici, c'est de tester dans mon code, donc dans le code ici de mon événement, je ne peux pas juste, si je veux savoir que c'est sur mon événement là, je dois faire un test. Tu as cliqué à telle coordonnée, d'accord ? Et c'est à moi d'aller savoir qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là. Vous voyez la nuance ? Donc c'est à moi de savoir qu'il y a un rond à cet endroit-là, c'est donc à moi d'entretenir un objet, un modèle objet en mémoire, etc. Voilà. Donc le canvas a cet inconvénient-là lié à sa performance de dessin, pour autant. Alors, sur le site d'IE Test Drive, il y a quelque chose... Waouh,
ça va changer de zoom.
Oui, tu es peut-être zoomé un peu fort là. Même semaine, ouais, non, c'est moche. Sur le site d'IE Test Drive, on a ceci qui est assez intéressant. En fait, c'est quelque chose qui est dynamique, un petit peu comme JS Fiddle finalement, mais là adapté au canvas. Vous allez pouvoir écrire un code sur la partie droite qui va être exécuté pour générer, sur un code sur la partie gauche, pardon, qui va être exécuté pour générer la partie droite. Vous voyez ? Donc ici, par exemple, on a bien le contexte qui est positionné à la couleur qui dessine un rectangle noir, puisqu'il n'y a pas de contexte de couleur pour le moment. Par la suite, je mets le contexte de couleur donc avec ça de vert et ça de bleu. Donc, vous voyez qu'on va être sur ce bleu tirant vers le vert. Et je remplis un rectangle. Puis, je vais passer avec une épaisseur de ligne à 5. Et je vais dire que le style de la ligne va être noir. Et que je vais dessiner ici avec un rectangle noir. Vous le voyez en dessous. Puis, un rectangle bleu. Puis, finalement, un rectangle jaune. Mais avec un peu de transparence, puisque j'utilise RGBA, où je précise la transparence en plus. Et ce code-là, donc vous pouvez, c'est du dynamique, c'est-à-dire que je ne veux plus le dernier triangle ici. Exécute, et tac, dynamiquement, je peux le voir. Donc du coup, ça peut vous permettre, avec le CanvasPad, eh bien, de dessiner votre objet et de le tester sans avoir à monter toute votre application. Donc ici, on a un petit exemple, alors qui a été écrit par David, je rends à César ce qui lui appartient, parce que
il va se foutre de moi derrière, en fait, c'est pour ça.
Donc c'est super. En fait, ce qu'il fait, et c'est pas mal, hein, pour le coup, moi je suis assez fier, donc il a repris en fait ce qui se passe dans CanvasPad, et ce qui est impressionnant, c'est qu'il utilise une vidéo, finalement, comme brosse de remplissage de son rectangle. Alors ça, c'est bien, c'est accéléré, la 3D, enfin la vidéo est accélérée.
Si tu bouges les flèches gauche-droite, il tourne le truc, normalement. Attends. Ouais. Ah, oh. Oh, ça a pris que 2 semaines, donc...
Ouais, non, mais en même temps, c'est normal. On est des experts aussi, il faut dire ce qui est. La problématique, en fait, qu'il y a eu ici, alors David est au courant, je ne fais pas ça dans son dos, je ne voudrais pas que vous croyez qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est vrai que quand on apprend au début, on ne maîtrise pas forcément toujours tout, et on a récupéré du vieux code, alors maintenant, c'est un tueur de canvas, David, donc il n'aurait pas fait cette erreur-là. En fait, ce qui se passe, c'est que le canvas, c'est un contexte. Vous voyez qu'en fait, c'est comme une pile. En fait, non, ce n'est pas comme, c'est une pile. Un peu comme ceux qui ont fait un peu 3D, on empile les propriétés dans une machine à état, et cette machine à état sert à dessiner. Donc, par exemple, j'empile que le contexte de remplissage, c'est rouge, j'empile qu'il y a une translation, j'empile qu'il y a une rotation, et le prochain ordre de dessin, il dépile. Et il prend l'élément et il le fait dans ce sens-là. C'est ce qu'on appelle le contexte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait un get context. Bien. Donc ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que David, pour dessiner, il met le fill style à 0, il dessine après, donc il change dans la pile le fill style, il met la line width à 5, donc ça, c'est ce qu'il met dans la pile, et puis après, il fait des translations. Il décale, en fait, de 250 à 250, ce qui fait que le prochain rendu sera décalé ainsi. Il fait une rotation, etc. Et la problématique, ce qui s'est aperçu David, c'est qu'à la fin, il était obligé d'annuler sa pile. Parce que s'il ne le faisait pas, et ce que nous allons faire tout de suite, je vais ouvrir le répertoire en question. On va lancer Notepad, parce que moi aussi, j'ai codé sans Visual Studio. Et pas que les partenaires. Donc, je vais reprendre ici CanvasPad Reusing, que je vais glisser. Bon, là, c'est super, avec la super résolution. Voilà, super feature de Vimeo. Hop là. Allez, ça calme. Je suis d'accord. Donc, je vais commenter ceci. Puis alors là, on sent tout de suite que l'intellisense et la coloration syntaxique, ça a du sens. Je fais ça, je fais... Donc, OK. Et j'exécute à nouveau le truc. Et là, ce qui se passe, ce qui est logique, puisqu'en fait, il a empilé son contexte, et il ne l'a pas reset, ce qui fait que la boucle suivante va dessiner des objets en décalé par rapport à la première qui a remis son contexte, etc. Et c'est un peu la mort, quoi. Parce qu'en fait, le dessin continue vers l'infini et au-delà en décalant toujours de 250 par 250 par rapport au contexte précédent. Voilà, juste pour la petite histoire, parce que ça nous a fait rigoler quand on l'a vu. En fait, pour corriger ça, c'est très très simple. On a une fonctionnalité très puissante dans le contexte qui s'appelle context.save. D'accord ? Je sauvegarde l'état de la pile. Et accrochez-vous aux branches, ça va être surpuissant. C'est pour ça qu'on le fait en fin de journée. Context.restore. Si je sauvegarde ça et que je réexécute à nouveau le code, voilà, ça fonctionne. Waouh ! Hein ?
N'importe quoi.
Donc je repasse la main à Maître Rousset qui va essayer de nous faire croire que SVG finalement c'est pas si mal.
Ouais. Alors comment faire son choix entre Canvas et SVG ? Parce que vous commencez à comprendre que SVG est plutôt meilleur que Canvas, mais il y a des scénarios où Canvas est pas mal aussi. Alors on va commencer. Le but du jeu de cette présentation, c'est pas de tourner autour de tous les slides, mais c'est de voir directement en action ce que ça donne. Donc je retourne sur ma page ici. Premier truc qui peut être intéressant, c'est pour la cartographie. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai demandé à charger la carte entre ici et la tour Eiffel, donc on n'habite pas très loin. Et typiquement, pour la cartographie, où là derrière on a une image qui est générée par tuile par les serveurs Bing Maps ou Google Maps, quand je vais zoomer, justement cette indépendance de la résolution est assez intéressante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Google Maps et Bing Maps utilisent tous les deux du SVG lorsque c'est supporté par votre navigateur, bien entendu. La difficulté étant de viser le carré. Et on voit bien ici que j'ai du SVG qui a été sorti par Bing pour dessiner ce passe-là. Donc si vous avez des scénarios de cartographie, ça peut être intéressant d'imaginer justement SVG, d'autant que là, on n'a pas non plus, comme tout à l'heure, mon sapin de Noël avec le manège et tout. Ça ne charge pas beaucoup en mémoire et c'est bien adapté à ce scénario-là. Donc premier scénario intéressant, la cartographie. Moi, je pense plus adapté que Canvas dans ce cas précis. Sauf ton respect. Ensuite, le deuxième truc, ce sont les documents complexes, les plans d'une maison ou pour travailler ici sur, on va prendre celui-là, là, par exemple. Lorsque je veux faire des descriptions assez intéressantes, comme justement j'ai cette indépendance par rapport à la résolution, ça peut être intéressant de le garder en vectoriel, d'autant plus qu'ensuite dans les scénarios d'impression, je vais pouvoir l'envoyer facilement dans une imprimante et garder une très bonne résolution puisque j'ai toutes les informations vectorielles. Donc pour les plans d'une maison, ça peut être intéressant pour tout ce qui est donc cartographie également. L'étape d'après, c'est chiant de taper SVG, on le sait, mais il existe des librairies comme celle-ci. Alors souvent, ils ne testent pas bien dans IE, je ne sais pas pourquoi, qui permet en fait d'éviter de taper tout le XML de SVG. Et typiquement, si je prends cet exemple-là que j'aime bien là, qui marche quand même dans notre navigateur. Donc, il met en place un système d'animation, comme on le voit ici avec rebond, etc. Il a géré les cercles. Si on regarde le code source, il est extrêmement simple, très peu de lignes de code, on le voit ici. Il va charger la librairie. Et en fait, Raphaël gère sa propre notion de couleur, de cercle, etc. Et il va les créer et rajouter par-dessus, un petit peu à la mode de ce qu'on a vu tout à l'heure de jQuery, un enchaînement de méthodes à exécuter, en très peu de lignes de code. Et en fait, il vous génère pour vous à la volée le XML qui va bien. Donc RaphaelJS, c'est une librairie très connue, vachement pratique. Il a également la possibilité, si on retourne en arrière, mais je crois que la dernière fois, il n'a pas bien bossé sur la compatibilité IE. Il y a une version, il est peut-être dégagé du coup, qui permettait de faire des graphiques. On en voit quelques-uns ici. Donc si vous voulez avoir des beaux graphiques, pensez peut-être à Raphaël. Bon, celui-là, il est immonde parce que les couleurs piquent les yeux, mais vous pouvez changer les couleurs. Alors il y a une autre librairie que je préfère, moi, itcharts.com. Donc là, pour le coup, quand vous êtes rentré dans votre entreprise pour bosser, ça peut être intéressant, qui permet justement, en très peu de lignes de code, de vous proposer ce genre d'interaction. Pourquoi c'est intéressant SVG à ce niveau-là ? Imaginez que vous ayez une base de données avec de l'information, de la BI, ce genre de choses, que vous voulez pousser vers le client pour le faire. Souvent, les générateurs de rapports généraient des bitmaps. Donc en fait, dès que vous aviez une interaction, vous avez un aller-retour vers le serveur pour générer la bitmap qui correspondait à ce que vous vouliez. Là, on a possibilité d'avoir tout dans le navigateur et de faire des interactions avec. Donc SVG se prête très bien là-dessus. En très peu de lignes de code, à nouveau, la librairie vous permet d'avoir ce genre de graphique. Et chose incroyable, on peut le mettre vraiment en production, quelles que soient les parts dans le marché des navigateurs. Si je bascule en IE8, qui ne supportait pas SVG encore, ça continue de fonctionner, puisque le format concurrent à SVG était VML à l'époque. Et ces charmants messieurs, mesdames qui ont créé le framework ont eu la bonne idée de dynamiquement gérer l'un ou l'autre. Vous n'avez pas besoin de vous galérer, vous mettez cette librairie et ça crache tout ça pour vous. C'est gratuit si vous avez un usage non commercial de la librairie. Sinon, ce n'est pas très cher par rapport au service rendu. Moi, j'adore iCharts. Et donc, on peut imaginer ensuite l'utiliser. Hein, je m'étais amusé pour vous montrer dans les bonnes pratiques. L'utiliser avec, je vous l'avais montré tout à l'heure, avec JS Fiddle. Ça fait ce genre de graphique. Alors, à l'origine, c'était les parts de marché des navigateurs sur son site. Je ne sais pas pourquoi IE, il avait un tout petit camembert vert. Donc, je me suis dit, il doit avoir un bug. Donc, je me suis permis de modifier les valeurs ici. Mais rien n'empêche de remettre comme c'était à l'origine. Donc en fait, c'était IE qui avait 12. et de remettre Firefox ici et de réexécuter l'ensemble. Voilà, de rétablir.
Ce qui est génial, c'est qu'il y a les animations. C'est...
Voilà, de rétablir la vérité. Je clique sur le truc, ça fait les petites animations. Et bon, bah, moi, je peux jouer des heures avec ce truc-là, donc je pense que vos utilisateurs aussi. Pour finir, l'accessibilité. Bon, ça fait moins rêver, mais c'est quand même important. Comme tout est vectoriel, les technologies justement type Flash ou Silverlight avaient la possibilité d'avoir de l'accessibilité, pas tout de suite, mais on a fini par le prendre en compte. SVG également, en fait. Si on regarde ici, sur les différentes pastilles qui correspondent à des checkbox, si mon périphérique d'accessibilité il arrive, il faut qu'il soit capable de savoir quelle est la checkbox qui est sélectionnée pour le lire. Donc on peut le décorer avec des rôles de type ARIA. Donc à nouveau, si je coche cette case par exemple, qui est tout en vectoriel, et que je viens ici sélectionner ma pastille, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai un attribut de type ARIA check qui est passé à true, pour m'indiquer que c'est la première pastille qui a été choisie. Donc très bon couplage avec les technologies d'assistance.
L'avantage d'être dans le DOM, en fait.
C'est l'avantage d'être dans le DOM, effectivement. Donc je crois que ça a fini ma défense pour SVG. Donc je vais revenir rapidement sur les slides pour rappeler tout ça. Donc les scénarios clés, les documents vectoriels relativement complexes, tout ce qui est cartographie, génération de charts, c'est quand même assez intéressant de le faire en SVG. On peut le coupler avec CSS, on peut faire des images de fond en SVG, lorsque le navigateur le supporte. On peut faire des animations avec JavaScript, alors parce que nous, on ne supporte pas le langage Smile, donc il faut animer les éléments, par exemple, en SVG à travers JavaScript. Et du coup, ça coûte potentiellement cher parce qu'on passe par le DOM. On en reparlera tout à l'heure. Et on peut avoir de l'accessibilité et Search Engine Optimization, jeux vidéo, on en parlera après. Alors, à toi de me défendre,
Canvas. Bon, mais Canvas, forcément, ce n'est pas les mêmes avantages.
Ben non.
Ils sont différents. Donc, on va revenir ici. Donc, le canvas, déjà, en fait, vous avez accès à une image. Donc, du coup, tous les scénarios de calcul et de manipulation d'image sont à votre disposition. Alors, vu que la machine de David est catégorisée dans la série des brouettes, je ne vais pas trop aller fort. En fait, ici, c'est un moteur de ray tracing. Ce moteur de ray tracing, il calcule pixel par pixel une image. Bon, là, on ne dirait pas que c'est une boule. Le problème, si je mets dans Good Quality, on va se revoir demain. Donc,
D'exagère, menteur. Clique sur render.
Ok, c'est parti. Alors, je vais défendre le canvas maintenant. Nous avons le temps. Donc, l'idée qu'il y a derrière tout ça, cher David, c'est donc de... Ça va arriver un jour, je vous garantis. Voilà, donc là, vous voyez que c'est bien parce que, du coup, long running script, c'est pas lié à canvas pour le coup. L'écriture dans le canvas est rapide. Par contre, bon, c'est un calcul mathématique qui est derrière. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur les web workers. Là, typiquement, si on pouvait... Ah, voilà. Si on pouvait avoir les web workers, on aurait pu un petit peu paralyser tout ça. Donc là, l'idée de cette démonstration-là, c'est de montrer que dès qu'on va avoir besoin de faire de la manipulation d'images, de la production dynamique d'images à partir finalement d'algorithmes, bien, là, le canvas trouve son exemple. Autre puissance du canvas, c'est ceci. Voilà, c'est de pouvoir générer des security errors, ce qui est quand même pas mal.
Tu fais F5. Tu as été trop vite. Allez, start.
Attends, il n'y a pas fini de charger. Là. Voilà. En fait, c'est ça. C'est que je prends deux vidéos, d'accord ? J'enlève le vert de l'une, et à la place, je mets la première vidéo, et on peut donc faire de la composition. Et donc, encore une fois, tout ce qui va être manipulation puissante de l'image, là, en l'occurrence, le mélange de vidéos. Alors, je ne suis pas responsable des vidéos. On peut, encore une fois, toujours pareil, c'est encore la même fonctionnalité, c'est faire du charting aussi, mais alors là, c'est du charting de très haut niveau, où on n'est pas finalement sur des formes géométriques standards que pourrait utiliser le SVG, mais voilà, sur des formes qui sont relativement complexes, où l'on va avoir, par exemple, ici Sunburst, ou ici des grands exemples avec des arbres, etc. Ces choses-là sont plus simples à produire, au final, avec Canvas, parce qu'on ne va dessiner que la zone visuelle, et vont permettre n'importe quel délire dans le visuel, justement. Bien sûr, avec l'inconvénient que dès que vous allez vouloir gérer le clic, il va falloir quand même, encore une fois, faire ce picking vous-même à la main. Alors, un autre exemple, tiens, au hasard.
Ah, tiens, voyons.
Ah, dis donc, hein. Alors là, c'est pareil, en fait. Pour gérer une énorme quantité de cartes, 14 000 en l'occurrence, ce qui représente 4 gigas de données en mémoire, l'idée, ce n'était pas de tout dessiner, forcément, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, SVG, ce n'était pas jouable. Je ne pouvais pas faire un rectangle SVG par carte. Alors on a essayé au début, donc on a fondu deux ordi comme ça. Donc du coup, on a changé notre approche. Avec le canvas, l'idée c'est que c'est moi qui dessine chaque carte et je vais donc pouvoir les clipper. Je vais pouvoir me limiter finalement au nombre maximal de cartes qu'il y a à l'écran. Je crois qu'il y en a 80 en hauteur sur une cinquantaine, enfin 80 en largeur sur une cinquantaine en hauteur. Et du coup, vous le voyez ici en termes de performance, je vais pouvoir me retrouver avec des performances que je ne pourrais pas avoir avec SVG aujourd'hui, encore une fois parce que je suis sur des données ou de la manipulation d'images. Et pour finir, alors même si en termes d'accessibilité, on est très loin de ce que va savoir faire SVG, je le reconnais, l'idée que l'on a en fait derrière Canva, c'est de pouvoir faire donc du visuel de données, donc vous voyez ici du charting, mais pour autant garder une approche que les périphériques d'accessibilité soient capables de lire, donc de proposer finalement du visuel pour ceux qui sont capables de le voir et d'avoir toujours quelque part un backup de données accessible pour le périphérique d'accessibilité. Alors, effectivement, il n'y a pas de tagging du DOM puisqu'il n'y a pas de DOM, donc du coup, on essaye de proposer les deux solutions. C'est plus une best practice qu'un vrai support Canvas au niveau de l'accessibilité. Donc voilà, au final, ça nous donne ces deux approches-là. Maintenant, l'idée... juste pour résumer Canvas, manipulation des pixels, ray tracing, traitement d'images, affichage de données temps réel lourdes et brutes, des scènes complexes, animations mathématiques, beaucoup de données que vous devez filtrer pour les afficher, du remplacement effectivement, donc cette possibilité d'enlever, donc finalement c'est encore du traitement d'images, d'enlever de la data pour en ajouter à la place, et bien sûr, le jeu vidéo. Le jeu vidéo trouve toute sa puissance avec Canvas, puisqu'on se retrouve de la même manière que vous le feriez sur les autres environnements, avec de la manipulation d'images, d'un pixel, et c'est la base du jeu vidéo. Alors du coup, SVG ou Canvas ?
Alors là, on a essayé de positionner en fait par rapport aux expériences, en fonction de vos besoins, quelle technologie il faudrait fallu utiliser. Bon, je suis en train de mourir là.
Attendez, hop,
donc, on va faire, la meilleure technologie à utiliser en fonction de vos besoins. Il y a des scénarios de recouvrement, donc on peut le voir ici. Donc par exemple, SVG est meilleur dès qu'on a besoin finalement d'extraire des données, les envoyer en format XML vers le client. En termes d'accélération matérielle, on fera des démonstrations tout à l'heure. On est les premiers à avoir fait des cakes, vous savez, avec nos poissons qui tournent dans le bocal, dont on est très très fiers. Mais tout ça pour dire que l'accélération matérielle est un vrai sujet. Tout le monde s'y est mis sur Canvas. Firefox, depuis la version 4, a l'accélération matérielle par défaut. Chrome l'a, mais ne l'a pas encore activé. Opera l'aura dans la version 12. Mais sur Canvas, et par exemple sur SVG, on va voir tout à l'heure sur des exemples, il vaut mieux pas s'amuser à trop faire des trucs complexes en SVG parce que la plupart des navigateurs ne l'accélèrent pas matériellement, ce qui n'est pas notre cas, donc autant se faire plaisir de temps en temps. Sur les jeux vidéo, alors sur les jeux vidéo, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est souvent du Canvas en fait, pour plusieurs raisons, c'est les habitudes des développeurs.
La performance, la consommation mémoire réduite, la capacité à accélérer rapidement effectivement ce genre de data.
Donc plutôt Canvas.
Oui, tout à fait.
En même temps, rien ne vous empêche de mélanger les deux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un Canvas en arrière-plan ou en premier plan et du SVG derrière. Donc on peut mélanger les deux technologies d'affichage. Elles cohabitent très bien ensemble. Alors on va passer à l'outillage et ensuite on passera sur les parties un peu plus fun. Alors l'outillage, pour générer du SVG, comme c'est du XML et qu'on adore tous taper du XML, il y a plusieurs outils. Alors chez nous, Visio, peu de personnes le savent, mais ça permet d'exporter du SVG. Adobe Illustrator permet de sauvegarder également au format SVG. Inkspace est un logiciel gratuit open source que vous pouvez télécharger qui permet de le faire également. Ouais. Et le dernier petit que j'ai trouvé, SVG Edit, là, qui est hébergé chez Google, est un logiciel en ligne qui permet également de le faire. Donc, on va le voir tout à l'heure en démonstration. Côté Canvas, il n'y a pas trop de magie en fait, puisque comme c'est des API assez bas niveau,
c'est du code. Arriver à générer du code.
Soit vous avez des plugins finalement qui partent d'une description d'une scène quelle qu'elle soit et qui vont cracher à travers un moteur d'animation ce qui se passe, soit faut quand même l'écrire à la main au bout d'un moment. Alors j'ai trouvé un plugin qui travaille à partir d'Illustrator. Vous décrivez votre scène en Illustrator avec des techniques où vous placez des propriétés d'une manière particulière sur les masques. Et le plugin, c'est écrit par quelqu'un de chez Microsoft qui s'ennuie un week-end manifestement. Scanne l'ensemble des calques de Illustrator et vous génère une scène en Canvas en prenant
avec
tout
code.
Avec du code. Il a fait un moteur d'animation et puis il n'y a pas vous en tant que par exemple designer dans Illustrator, vous n'avez pas besoin de faire du code et ça vous crache la scène. Donc moi j'ai plutôt décidé de vous montrer un outil sur SVG Edit ici. Je vais revenir en arrière pour tout à l'heure. Hop. Toujours épaté de voir ce genre de projet. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un petit éditeur qui fonctionne dans le navigateur. Alors je vous dis, je suis une truffe en dessin, donc vous attendez pas de miracle non plus. Voilà, donc c'est très moche. Voilà, je ne sais pas ce que j'essaye de dessiner. C'est presque Mickey. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est l'exporter, enregistrer l'image. Et qu'est-ce qu'il vous fait ? bah, il vous génère le SVG qui va bien après être intégré dedans. Donc c'est assez sympa, tout ça en ligne, et je crois même qu'il y a le code source qui est dispo si vous voulez jeter un œil et refaire une version à vous, quoi. Donc des outils, il y en a plein pour SVG, moins pour Canvas, mais c'est relativement logique de par l'approche des technologies.
Alors ce qu'on retrouvera plus pour Canvas, c'est finalement des librairies de sprites, des librairies d'animation, des librairies de 3D, de physique, qui vont apporter des éléments de code à Canvas qui n'est que le support visuel. Bon.
Alors il nous reste à peu près 20 minutes, c'est ce qu'on était fixé. C'est un peu de fun maintenant, hein, parce qu'on vous a gavé avec plein de trucs. Et on va essayer de faire deux jeux vidéo. Donc moi j'ai un jeu qui est plutôt joli, vous le trouverez facilement, et il y en a un autre qui est peut-être meilleur en code, mais moins bon en graphisme manifestement. Première étape, on va revoir un jeu simple. Donc, je vais le faire, hein, puisque tu es parti là-bas.
Ben oui.
On va regarder deux fois le même code, ici. Donc ça commence, attention, accrochez-vous. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Donc je vais y jouer à peu près 5 minutes, vous vous rendiez bien compte de la difficulté du truc. Je vais regarder le source code. Ça, c'est la technique donc, de Canvas. Comme on vous l'a expliqué, j'ai juste une ouverture de balise Canvas qui est ici. Je récupère mes codes clavier et je les bouge de 20 pixels à gauche ou 20 pixels à droite en faisant gaffe de tester le bord de l'écran pour pas disparaître à jamais dans le cloud. Et pour le reste, je vais dessiner ma balle ici. Cette balle va être dessinée un certain nombre de millisecondes. Ici, 16 millisecondes. En fait, avec 7 intervalles, j'essaye de viser les synchro-synthes 60 frames seconde. Donc, je suis rappelé toutes les 16 millisecondes. Et toutes les 16 millisecondes, je suis obligé de redessiner à chaque fois ma scène, comme on le disait avec Canvas. Pas de maintien en mémoire de ce que vous avez dessiné. Et j'ai perdu, bien évidemment. La version SVG est nettement meilleure, comme vous pouvez le constater.
C'est
beaucoup plus joli, moins d'aliasing. Et en fait, ce qu'on regarde au niveau SVG, là, c'est quand même assez différent. C'est que je décris en SVG, finalement, les formes de base qui vont servir à mon jeu. Et c'est ces formes-là que je vais bouger. Elles sont maintenues. C'est-à-dire que si jamais j'arrête de dessiner, elles seront toujours présentes en mémoire. Bon, la différence, c'est qu'ensuite, pour bouger, je vais bouger en fait des éléments, vous avez 7 attributs sur le DOM, ce qui coûte potentiellement cher d'ailleurs. Dans les bonnes pratiques, il vaut mieux utiliser, il y a 2 DOM en fait quand on fait du SVG. Vous avez une réflexion dans le DOM classique, donc vous pouvez manipuler. Il y a un DOM spécial SVG qui vaut mieux adresser, on gagne un peu de performance à ce niveau-là. Donc voilà, on a les deux mêmes jeux, et donc on va voir du coup dans un premier temps le jeu de David. Avant toute chose, je voulais vous montrer des benchmarks, justement, lorsque vous allez faire le choix de votre jeu vidéo. Là, c'est en SVG, et il y a à peu près, je ne sais plus combien,
c'est 1000.
Il y a 1000 trucs qui sont à l'écran. Je suis à peu près à 30 frames secondes sur IE9. Si je passe en Canvas, donc c'est un développeur Flash qui s'est amusé à tester les performances des deux technologies. Si je passe en Flash, donc on a le même résultat, je passe à...
Une quarantaine, on va dire. Tu gagnes 10 images par seconde.
Voilà.
Donc c'est un sixième de performance en plus.
C'est un peu plus rapide. Je vais revenir en arrière, ici. Hop. Je vais lancer Firefox 8, puisqu'il est sorti il y a peu de temps. Sur Canvas, ils ont exactement les mêmes performances que nous, il me semble. Donc voilà. Hop, à peu près 30 à 40.
Un poil moins, quand même, il faut le dire.
Ah, 30 à 40, ouais, rien de flagrant.
Si, s'il te plaît.
Et sur SVG, c'est là où, en fait, pour l'instant, Mozilla n'a pas travaillé sur cet aspect-là, parce que je pense que c'est que Canvas qui intéresse les gens. Là, je suis en train de faire fondre mon Vaio que j'ai payé une fortune, puisque ça va descendre à 2 images secondes. Donc, pour les jeux, typiquement... Si vous voulez faire un jeu cross-navigateur, c'est quand même l'intérêt de... Voilà, je ne sais pas où je parle, là, mais...
D'un cloud.
L'intérêt, c'est d'utiliser la technologie qui marche le mieux partout. Et il se trouve que Canvas marche très bien dans tous les navigateurs modernes. Donc c'est pour cette raison, souvent, qu'on fait du choix de Canvas. Et je passe la main à David pour nous montrer son super jeu, Brick Brock, qui va détrôner Angry Bird bientôt.
Alors, il faut quand même savoir que nous avons dans la salle le champion du monde de Brick Brock. Il est au premier rang. Il a réussi à finir le jeu en moins de 40 secondes. C'est pas possible, même moi avec le code, j'arrive pas à le faire. Donc j'ai une capture d'écran qui a été attestée par notaire, c'est possible. Alors là, l'idée qu'il y a eu derrière Brick Brock, bon, c'était justement de faire un Arkanoid. Alors si vous me connaissez un peu, j'adore Arkanoid. Chaque année à la Coding for Fun, j'en fais un. Donc là, il est fait en HTML5 et l'idée, c'était c'était de choisir, pour faire un jeu vidéo vraiment en connaissance de cause, quel techno choisir. Pour le coup des briques et de la raquette, il m'est apparu évident que c'était SVG. Pourquoi ? Parce que du coup, à chaque fois que j'appuie sur une touche, je bouge un objet, mais quand je n'appuie pas sur une touche, le système reste statique, il n'y a rien qui va bouger, hormis la balle qui va se déplacer toute seule. Et du coup, j'ai une très faible consommation puissance, puisqu'il n'y a que la balle qui se redessine. Il était moins intéressant de faire du canvas sur ce coup-là, puisque je dois tout redessiner à chaque fois. Par contre, comme je voulais me la péter grave, je me suis dit mon jeu est moche, alors j'ai rajouté le Wormhole Mode.
Il est beaucoup plus beau maintenant.
Voilà, il faut arriver à jouer en Wormhole Mode si on veut être validé par le Guinness Book. Hein. C'est pas... si je lance un jeu, donc du coup, avec la souris ici, je vais pouvoir... pareil. Donc, je vous rappelle qu'il a fait ça en moins de 40 secondes, pour la petite histoire. Voilà. Donc, moi, j'ai perdu, forcément. Donc là, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'en fait, il y a les deux. J'ai SVG en premier plan qui dessine les briques, et les balles, et la raquette. Et j'ai le trou de verre à la Stargate derrière, qui est, lui, dessiné en canvas. Puisque le choix du canvas me paraissait évident, je redessine constamment tout l'écran, avec des cercles de plus en plus proches, etc. Du coup, les deux fonctionnent bien comme ça. Alors, on va faire les malins, puisque du coup, nous, on est très fort en composition, et les petits copains un peu moins. Alors, ce n'est pas pour cracher dessus, en fait. C'est surtout pour dire, comme disait David, si jamais j'avais voulu vraiment faire ce jeu dans l'absolu, j'aurais dû revoir mon choix. J'aurais dû revoir mon choix parce que je me serais aperçu que sur... Firefox, eh bien, en fait, on avait un problème parce que des fois, ça coupait, vous voyez. Et du coup, c'est chiant pour jouer, en fait. Donc là, ben, réflexion, qu'est-ce que j'aurais dû... Ouais, j'arrête. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, en fait ? J'aurais dû tout passer en canvas, en fait. Comme dit David, canvas est accéléré. Donc, OK, je perdais le choix que j'avais fait pour SVG, mais si je voulais être multinavigateur, mon choix se portait full canvas. La notion était séduisante, la notion de composition. Pour autant, elle ne se comportait pas très bien sur Firefox. Et vous allez voir que sur Chrome, c'est un petit peu mieux, sans pour autant non plus transcender l'univers. Donc, on n'a pas les coupures. Par contre, on n'est pas non plus à 60 images par seconde. En fait, comme disait David, ils n'ont pas totalement fini de travailler sur la partie SVG. Donc, forcément, la partie intégration avec une sur-layer n'était pas non plus faite. Donc là, moi, mon choix de jeu, au final, n'est pas un bon choix puisque je mélange les deux technologies, m'apercevant de la même manière que ça ne marchait pas. Je vais pousser le débat un peu plus loin. Je teste ça sur mon Windows Phone ou sur un Android qui ont encore moins de capacité, si vous voulez, de composition que les autres. Là, le choix du canvas est encore plus logique, puisque du coup, sur les petits écrans, je dessine moins de pixels, hein, puisqu'il y a moins de pixels à l'écran. Je n'ai pas besoin de faire de composition, donc ça ne va pas arracher le GPU. Donc le choix du canvas, c'était le bon choix. Alors pour autant, ici, rapidement, pour passer avec vous sur le code, vous allez voir que ce n'est pas non plus très compliqué. L'algorithmique est derrière tout ça. Donc, bon, je n'ai pas fait namespace, honte à moi. Mais j'en fais maintenant. Donc en fait, l'idée qui est derrière tout ça, c'est que je vais avoir un événement keydown ici qui va maîtriser le jeu, qui va faire bouger le pad speed avec plus ou moins 10. Ce qui se passe, c'est que constamment, le pad se déplace d'une vitesse. Quand sa vitesse est 0, ben, il ne bouge pas. Et j'augmente sa vitesse en laissant ou le clic de la souris appuyé ou la touche appuyée. Ce qui fait qu'en fait, on ne contrôle pas vraiment la position de la raquette, ce qui aurait été trop simple, mais son inertie. D'accord ? Et ça, en fait, ben, je le fais assez simplement avec tout en bas ici un intervalle qui est ici, si je le trouve, start game, voilà. Et donc là, je vais faire init game. Là, j'ai fait F12, c'est l'avantage de Visual Studio, il a la notion des fonctions et je peux me promener. Et je vais donc générer les briques et faire la game loop. La game loop, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le mouvement du pad, le déplacement de la balle, d'accord, et puis potentiellement le calcul des collisions. Alors, le calcul des collisions, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez agréable, puisque là, pour le coup, alors comme disait David, je touche les attributs pour déplacer l'objet. Je vais venir vous montrer les collisions. Collide with pad, ici, en fait. Pour le coup, comme je suis sur des objets vectoriels, j'ai leur définition géométrique, et je peux faire, par exemple, ici, une comparaison de distance entre deux objets. J'ai déjà le modèle objet qui existe en mémoire. Mon wormhole que l'on va voir tout à l'heure, là, j'ai dû créer des objets métiers pour porter mes informations. D'accord ? Là, c'est des objets du DOM qui portent mes informations. Je bouge leurs valeurs, je fais des tests de collision. Tout cela, comme disait David, dans un set intervalle qui doit être le plus près possible des 60 images par seconde, donc ça fait 16 millisecondes. Donc toutes les 16 millisecondes, je passe, je déplace le pad, je bouge la boule et je vérifie qu'il y a des collisions et je passe à la suite. Bien. En plus de tout cela, si on regarde juste le jeu ici, en fait, c'est assez simple. La composition, je n'ai pas fait grand-chose de particulier. Hein. J'ai positionné le canvas en premier, donc il est dans le fond. Et puis derrière, j'ai mis mon SVG qui est devant. D'accord ? Et là, donc, c'est le navigateur qui est tout seul. Comme je ne mets pas de couleur de fond dans mon SVG, eh bien, il laisse apparaître ce qu'il y avait dessous par composition. Okay ? Ici, dans ma game zone, mon background canvas, lui, il va être dessiné cette fois-ci avec un canvas dans lequel je viens récupérer donc son contexte, d'accord. Et ce contexte-là, bon, mais là c'est un peu plus compliqué, je fais un peu de 3D, c'est-à-dire que je dessine les ronds, je les dessine dans l'espace, je les reprojette à l'écran. Bon, le but n'est pas de faire de la mathématique aujourd'hui, mais ce qui est important surtout de voir, c'est que de la même manière, je vais faire un set intervalle, mais là, sur cet intervalle-là, il dessine, d'accord. Il ne fait pas que contrôler la position des objets, il les redessine à chaque fois. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Si on vient dans le wormhole ici, voilà, j'en profite pour calculer la vitesse d'affichage. Je nettoie l'écran, donc je dessine un gros rectangle noir sur le fond, puis je parcours chacun de mes cercles et je leur demande de se dessiner. Donc j'ai une fonction cercle ici, donc qui représente ma classe cercle en quelque sorte. Sa fonction draw, elle prend sa position x, y, elle la projette à l'écran donc pour avoir, puisqu'elle est dans l'espace, elle la projette à l'écran pour l'avoir en 2D. Je fais un begin pass, je dessine un arc, donc un arc fermé, donc avec deux rayons identiques. Je leur donne une opacité fonction de leur profondeur et je fais stroke. Stroke, ça dessine l'objet qui a été mis dans le path. Voilà, c'est tout. Et ça, je fais ça 60 fois par seconde. Donc là, le jeu en lui-même, j'ai vraiment les deux technos qui sont visibles. Vous pourrez télécharger tout le code si vous avez envie de regarder plus en amont. Au final, moi, ma conclusion, c'est que les deux technologies étaient possibles. Le choix ici n'est pas le bon. J'aurais dû faire du canvas.
À moi. Merci, David. Donc, je passe sur ma machine, qui est, je ne sais plus laquelle.
Toi, t'es 4. Non, t'es 1, toi.
Voilà, ok. Donc, bon, c'est bien gentil, son wormhole à Stargate. Bon, je ne pense pas qu'il va aller bien loin sur son jeu vidéo. Moi, j'ai fait un vrai truc.
Oui, en fait, tu as porté un
vrai truc. J'ai porté un vrai truc. Ça s'appelle un jeu de plateforme, ici. Avec du son, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a du son en régie. Donc, il n'y en a pas. Et donc, je peux jouer à mon jeu de plateforme, ici. Et j'ai plusieurs niveaux. J'ai fait un petit dédicace caché à mon navigateur préféré dans ce niveau-là. Hop, il s'appelle IE. Donc je peux jouer à mon jeu et mourir. Ok. Donc c'est un jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique. Assez sympathique. Je me suis amusé à faire le resize, d'ailleurs en me plantant dans la technique, je vous en parlerai tout à l'heure, pour faire le resize dynamique du jeu. Comment j'ai opéré? J'ai commencé par regarder quels étaient les frameworks disponibles. Alors là, il y a myriade de frameworks qui existent sur le marché. Il y en a un qui s'appelle, qui est pas mal d'ailleurs, que je n'aimais pas avant parce qu'il ne supportait pas IE9, et maintenant que je trouve très, très intéressant parce qu'ils ont fixé le code pour IE9. Tout simplement, le mec développe sur un Mac, et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, et il me disait, mais moi je veux bien coder pour le support d'IE9, mais j'ai un Mac, j'installe comment IE? Alors je disais, il y a une notion de bootcamp et de machine virtuelle, je pense que ça le saoulait vraiment de développer sur IE, donc on l'a fixé pour lui. Et du coup, c'est un framework de jeu assez sympa. Alors, ça rappelle l'époque bénite ou pas de Amiga. Qui avait un Amiga dans la salle? Ok, très peu de gens. Qui avait un Atari ST dans la salle? Quasiment tout le reste, bien plus de gens, c'est normal. L'Atari ST était nettement meilleur, on est tous bien d'accord. Je vais relancer la guerre à Amiga, machin.
Alors, je suis donc, carrément pas d'accord.
Parce que l'autre truffe, il a un ami. Enfin bon. Là, c'est donc un jeu de plateforme classique. Ce qui est intéressant, c'est que le framework vous donne la possibilité de charger des sprites, de faire des animations, de charger le jeu. Tout ça, c'est fourni par le framework. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre grand-chose. Et il se trouve que moi, j'ai utilisé un autre framework qui s'appelle easeljs.com, qu'on le voit ici. Donc, je vais zoomer un peu parce qu'on est passé en mode dur, là. Hop. Et celui-là, il est intéressant parce qu'il fonctionnait partout, déjà à l'époque. Il y a pas mal d'exemples de code pour savoir comment animer des sprites, par exemple. Et donc, je me suis inspiré de ce framework-là. Je l'ai réutilisé pour porter un jeu qui, à l'origine, fonctionnait en XNA vers HTML5 Canvas. Et ce code-là, on le voit ici. Donc, j'ai essayé de reprendre certaines bonnes pratiques qu'on a vues tout à l'heure, comme l'exécution immédiate de fonctions et puis l'ajout qu'on voit tout à la fin ici de l'objet level, par exemple ici. Moi, je suis plutôt parti sur du prototypage pour me forcer à me déshabituer à mes habitudes objets. Et de temps en temps, je me plantais bien sûr sur le ZIS en disant « Mais il est où mon ZIS, machin ?» Je suis passé dans document au lieu d'être dans mon objet. Donc, c'est assez intéressant d'écrire un jeu, justement. On fait que du canvas parce qu'on fait que du pur JavaScript pour le coup. Et on n'est pas lié au problème de gestion du DOM ou de compatibilité cross-navigateur dans bien des cas. Donc, en fait, j'ai structuré le code de cette manière-là. J'ai un objet pour gérer les ennemis. Les ennemis, ils sont assez simples à gérer. Et ce que vous propose le framework, en fait, c'est qu'on récupère les sprites dans mes assets ici. Donc j'ai des sprites qui sont quelque part là. Par exemple, le monstre A. Voilà, on le voit ici. Donc, c'est plusieurs fenêtres à découper. Et au lieu de le faire moi-même, on pourrait imaginer qu'en le faisant moi-même, bah, je vais instancier un canvas en mémoire, charger mon image dans le canvas et découper par fenêtre, par exemple, l'ensemble du sprite pour en créer une espèce de tableau d'animation sur lequel je vais cycler. Et bah, ce que fait le framework, il le fait pour vous. Vous lui donnez l'image que vous avez téléchargée depuis le serveur, vous lui donnez la taille des frames, et ensuite, vous donnez des noms aux différentes séquences dans le sprite. Une fois que vous avez fait ça, il vous propose d'autres méthodes pour calculer finalement la symétrie du sprite, donc quand il marche de l'autre côté, et un ensemble de méthodes pour positionner, de propriétés pour positionner votre objet à l'écran. Et ce qu'on voit également, c'est que je vais être rappelé tous les n millisecondes pour faire le jeu, et c'est là où j'ai ma logique de jeu, de tester les collisions, etc. Alors, il s'est foutu de moi tout à l'heure sur le fait que j'ai oublié de sauvegarder et restaurer le contexte, et il fait le malin sur les 60 images secondes. En fait, pourquoi 60 images secondes? Les écrans sont à 60 Hz, même si j'ai du GPU pour calculer 120 images secondes, ça sert à rien de balancer 120 images secondes, puisque l'écran n'en affiche que 60. Et lui, il a mis 16 millisecondes. Or, c'est 16,666666666, c'est quelque chose comme ça, on est d'accord.
Tout à fait.
Donc en fait, tu stresses ton écran pour rien, puisque tu calcules plus d'images que possible par l'écran, et en fait, vaut mieux plutôt mettre 17 millisecondes, parce qu'arriver à 59 images secondes, on fait plus trop le malin.
Ceci dit, il y a un vrai débat.
Pour sauver la planète, puisqu'on utilise moins de GPU et de CPU. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, donc c'est fait.
Mais attends, ton jeu, il est écrit en quoi, là?
Il est écrit en quoi?
Comme techno de support visuel, c'est du canvas, non?
C'est du canvas, ouais.
Ouais,
ok. Mmh. Non, c'est vrai. Alors, les niveaux, c'est assez simple. C'est un fichier en TXT qui décrit le niveau comme ça. Au début, j'étais parti dans un délire. Vous savez, quand on fait des structures objets et tout, je vais faire du SOAP avec des graphes d'objets en mémoire que je vais sérialiser en JSON et tout. Et puis, j'ai discuté avec Pierre Cochois. Je sais pas s'il est là. Il m'a dit, mais t'es con, quoi? Pourquoi? Bah, ça fait 160 bytes, ça marche. Pourquoi tu vas faire du SOAP ou je sais pas quoi et tout sur un téléphone? J'ai pas envie que tu m'envoies un méga pour faire ton pauvre niveau de jeu. Donc, c'est Keep It Simple and Smart, hein, je l'ai appris récemment en allant à une conférence Paris Web. Donc vous cassez pas la tête quand ça marche bien et que c'est, bah, gardez-le comme ça en fait. Donc ce que je vais faire là, je vais rajouter un monstre. Pour un monstre, c'est de A à B, C, D. Donc rajoute un monstre, je complexifie mon niveau de jeu. Et si je réexécute, et je force le cache. Alors, pour forcer le cache, le mieux c'est de lancer en in private, le fameux porn mode. Et donc là, j'ai donc le nouveau personnage qui est arrivé ici, et je peux donc mourir à nouveau. Donc, structure de jeu assez simple, et j'ai passé, je sais pas, moi j'étais plutôt donc d'origine, on va dire, XNA C#, j'ai passé un peu moins d'une semaine. La plupart des galères que j'ai eues, c'était sur les problèmes de son. En fait, HTML5 n'est pas bien prévu pour gérer le son aujourd'hui, la balise audio. Typiquement, si je relance le jeu ici, ce que j'avais, ce que vous entendez pas en fait... Parce qu'apparemment, on refuse.
Jeff, tu peux nous mettre le son du PC? Il y est.
Il y est.
Jeff dit qu'il y est.
Moi, je pense. Ah, alors à moins que j'ai utilisé. Ah ouais. Parce que moi, je suis capable d'être boulet. Hein. Mais Jeff le sait très bien. Il me fait.
Donc là, ça a piqué. Attention.
Attention. Voilà. Nettement mieux. C'est la suite. En fait, le souci que j'avais dans mon jeu, c'est lorsque je prends toutes les pastilles ici, il jouait le son qu'une fois et puis il s'arrêtait. Et puis ensuite, il en rejouait un peu plus tard. En fait, la balise audio HTML5 est prévue pour jouer du son en tâche de fond, mais pas vraiment pour gérer du multi-channel audio, ce genre de choses. Pareil, dans la balise audio, vous ne pouvez pas faire des effets de type modulation du son en temps réel. On ne peut pas traiter le flux audio en tant que tel. On est condamné par ce qui est supporté par la balise audio. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Mozilla qui travaillent sur un jeu d'API qui s'appelle les Audio APIs, pour vous permettre d'aller plus loin dans le traitement audio. Bon, pour l'instant, il n'y a que Firefox et Google qui aussi supportent une forme de Audio APIs, en attendant que ça soit proposé au W3C, standardisé, repris par tout le monde. Aujourd'hui, le jeu vidéo est un petit peu plus limité dans ce genre de trucs. Et du coup, c'est pour ça que j'ai compris un ensemble de trucs. Ce jeu-là, je voulais le faire multiplateforme. Il tourne à 60 images secondes sur les navigateurs récents. Je teste sur un iPad qu'un ami m'a prêté à la maison. Et je tourne dans les 10 à 20 images secondes maximum. Pour quelle raison? C'est qu'en fait... Ici, là, mon jeu, je passe mon temps à faire du dessin de Canvas, et Canvas n'est pas accéléré aujourd'hui par l'iPad. Par contre, ils accélèrent tout ce qui est CSS3, animation et transition. Donc déjà, première leçon à retenir. Et d'une part, l'audio, je vous l'ai dit, n'est pas très bon avec Canvas. Donc peut-être que d'autres technologies sont plus adaptées. Donc du coup, je suis revenu sur ce jeu-là, quand Google nous a proposé Chrome gratuitement dans le navigateur, au lieu de jouer au jeu, j'ai commencé par regarder comment ils avaient fait le jeu. Et puis on se croit toujours plus malin que les autres. Hein. Donc je dis déjà, ils n'ont rien compris. Ils font un jeu en HTML5 qui utilise Flash. Vraiment, ils n'ont rien compris. Est-ce que c'est juste pour l'empêcher de jouer au jeu sur l'iPad? Non, pas juste ça en fait. Je pense que Flash est justement plus adapté à la gestion du son que HTML5. Du coup, je suis condamné à attendre l'animation d'attente. Vous êtes obligé de rester pour avoir votre t-shirt, donc... Alors, c'est parti. Et en regardant le jeu, je me dis, bon, ça doit être un canvas. C'est obligé, c'est un canvas qui l'utilise.
Il y a eu gros débat sur le sujet.
Il y a eu gros débat. Donc, ce que je fais, c'est que je fais appel à ma fameuse barre de développement et puis je commence à regarder ce qui se passe. Et là, je vois un canvas, vous voyez, il est tout petit, finalement, sur cette zone-là. Et ils ne font pas un canvas forcément pleine page pour rafraîchir complètement, parce que ça coûte assez cher. Ils font des petits canvas qu'on envoie les uns derrière les autres en dessous. Et le reste, pour certaines animations, ils le déplacent par des opérations CSS. Et je pense que la raison qui est derrière, alors il faudrait que j'arrive à discuter avec des gens qui l'ont fait, c'est que quand vous faites des opérations de type CSS animation, est-ce que j'ai 3 étoiles? C'est important. Pas 3 étoiles. C'est de le faire avec des technos qui sont matériellement accélérés. Et typiquement, l'iPad ou l'iPhone ont l'accélération matérielle sur les transitions et l'animation. Donc, au lieu de faire finalement un canvas pleine page où je fais toute l'animation à l'intérieur, je peux faire plusieurs canvas que je vais déplacer avec CSS et je devrais avoir des meilleures performances sur les fameux iPads.
Et qui se composent entre eux de manière logique, puisque là, pour le coup, c'est que de la composition bitmap. Mmh.
Donc, voilà les retours d'expérience qu'on voulait vous faire. À nouveau, on va vous faire un peu de pub. Si vous voulez retrouver le code source de tout ça, c'est pas bien compliqué, il faut aller sur 2 blogs, moi que je trouve particulièrement sympa. On va aller un peu plus vite. Rick Brock, platformer. Ce sont ceux-là. Donc moi j'ai écrit 2 articles sur l'introduction à Canvas et SVG. Vous reprenez la plupart des exemples que j'ai fait ici. Vous avez le code source complet de mon jeu, si vous voulez le critiquer. Et David a fait son truc de cartes. T'es passé pour un malade avec tes 14 000 cartes hein, sur Twitter.
C'est vrai.
Vous trouvez ses cartes Magix et également son Brick Brock, qui est un tutoriel. Donc, c'est que des tutoriaux pour vous apprendre à faire l'ensemble. Donc, sinon, vous retenez nos alias Davrous et Eternal Coding, le mec modeste sur son blog. Voilà, merci. On finit à 18h. Si vous avez des questions, n'hésitez
pas. C'est maintenant. Avez-vous des questions?
Don't be shy.
Je pense que la bière et les t-shirts urgent.
Une question de Jean-Pierre. Et merde, question de Jean-Pierre. Vas-y, prends un micro. Est-ce que tu es pour ou contre SVG?
Tout au long de l'année dernière, donc on a vu Canvas SVG qui est arrivé, et tous les types qui commençaient à faire des moteurs de jeu un petit peu sérieux ont dit « Cool, on a testé, ça marche pas, on est revenu sur de la div qui bouge ». Est-ce que vous avez, enfin, j'imagine que ce n'était pas le but d'aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes amusé à tester ce que ça donnait, juste en bougeant des divs, en bougeant des CSS, des choses comme ça, parce qu'apparemment, tout ce que dit ce type-là, c'est que avant les 6 derniers mois là, où les navigateurs ont commencé à faire de l'accélération matérielle, c'était vachement plus rapide ça, et en plus, ça marche partout.
Ouais, en fait, tu as raison. En plus, ça marche bien sur les mobiles. Tant qu'on n'aura pas l'accélération matérielle en fait correctement gérée par tous les périphériques avec la puissance nécessaire, soit on fait un jeu, on va dire desktop. Dans ces cas-là, on s'en fout un peu, on le fait en Canvas, SVG, et puis on a les watts, on a le GPU. Si on fait des jeux sur mobile, effectivement, la conclusion, c'est que vaut mieux faire un mode dégradé comme ils l'ont fait dans Angry Birds, c'est-à-dire avoir une partie de Canvas et une partie de CSS. Et effectivement, on voit des frameworks. Du coup, le framework que j'ai utilisé, le mec est en train de bosser pour, avec les mêmes instructions finalement, soit tu craches en pur Canvas, soit il va s'occuper pour toi de découper des animations avec des éléments HTML et des divs et des morceaux de CSS qui bougent. Quoi.
Au final, la règle reste la même. En fait, il faut bouger le moins de pixels possible. Donc si en déplaçant un div qui va le faire d'un bloc avec l'accélération matérielle, c'est plus efficace que de se retaper le canvas, ben oui, forcément.
C'est surtout qu'en plus, le navigateur, il bouge des divs depuis toujours, donc ils ont eu le temps d'optimiser le truc.
Ça fait un petit moment que ça s'est accéléré matériellement, là où le canvas l'est un peu moins. D'autant plus, le canvas a quand même l'inconvénient de sa composition, si on fait des petits blocs, qui peut rester moins efficace que la composition.
On perd l'intérêt parce qu'il y a des t-shirts là-bas.
Ouais. Donc la réponse, on en a... Enfin, it depends.
Voilà, je voulais vous remercier tous pour rester cet après-midi. Vous pouvez récupérer votre t-shirt dans le calme et ensuite, on peut tous se retrouver avec bière, pizza pour discuter. Merci.
Merci à tous.